Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Bon, revenons sur ces deux meurtres commis en pleine rue en l'espace de 30 minutes à Montréal, mardi. Un premier dans le stationnement du centre Rockland, un présumé trafiquant de drogue, Maxime Lenoir, alors que un autre individu, Diego Florita, a été abattu sur la terrasse de la pizzeria Napoli. François Legault, donc, a publié sur Twitter un message, là, disant essentiellement ceci. Bon, j'ai rencontré Valérie Plante, je lui ai parlé. En tout cas, tout de moins. J'ai eu des discussions aussi avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. On ne lésinera pas sur les moyens pour remettre de l'ordre et pour protéger les citoyens. On appuiera nos forces policières pour que cette violence cesse. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait un point de presse également hier. Voici un extrait.
Pour envoyer un message qui est extrêmement clair, ce message-là, et toute la population le porte, et je vais le porter pour ceux, peut-être et celles qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
Maria Mourani est criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Bonjour, Madame Mourani.
Bonjour.
Alors, c'est non, Madame Mourani. Avez-vous l'impression que les criminels tremblent dans leurs shorts après avoir entendu la mairesse Plante? C'est non.
Je pense qu'ils sont morts de rire parce que ça fait depuis 2 ans maintenant qu'on vit ce genre de choses à Montréal, partout sur le territoire. Il n'y a pas des zones qui sont plus épargnées que d'autres, que ce soit le centre-ville. Bon, là, on a vu le centre Oakland, qui est quand même une première fois, là, faut le dire. Laval aussi n'a pas été épargné, la rive sud. Donc, depuis 2020... Ça, c'est peut-être non, mais pour eux autres, ils sont. Je pense pas que ça les fasse trembler dans leurs culottes du tout. Et d'ailleurs, il y a une impunité. Hein, on le voit, on l'entend. Moi, j'ai plusieurs sources qui me disent que c'est vraiment l'impunité sur le territoire. Ouais. Et cette impunité est pire dans certains territoires où les gars se promènent avec leurs guns. Ou carrément même quand la police est là, parce que vous savez, parfois on va avoir des patrouilles de police qui sont là, qui font de la surveillance. Ça ne les dérange pas plus que ça. Ils se baladent de manière insolente et arrogante. Et ça, c'est pas étonnant, parce que c'est juste la conséquence de cette politique anti-police règne depuis les 5 dernières années.
Ouais, abordons-la, cette question-là, parce que honnêtement, elle est importante, Madame Mourani. Là, est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là parce que là, à un moment donné, là, on a entendu des discours, notamment des discours très très woke, de définancer la police, que tous les policiers sont racistes, qu'il y a du racisme systémique à l'intérieur de tous les corps policiers. Alors, est-ce que ces grandes généralisations-là, c'est en train vraiment de nous revenir en plein visage?
Tout à fait. Moi, je pense que c'est pas la seule raison, parce que ce qui se passe actuellement à Montréal, c'est un assemblage de causes. Que ce soit des conflits à l'intérieur des groupes criminels, mais souvenons-nous, il y en a toujours des conflits dans les groupes criminels. Donc, c'est un élément, mais il fait partie, si vous voulez, de la somme des causes. Oui, le trafic d'armes, mais il date pas d'hier, le trafic d'armes. Il date depuis longtemps. Peut-être la petite différence, c'est que maintenant, il y a des armes artisanales qu'on peut se fabriquer facilement. L'escalade de la violence, oui, c'est vrai. La petite différence, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça pompe rapidement, puis ça s'en va faire des points dans les territoires ennemis. D'accord. Tout ça, c'est des petites nouveautés. Mais l'une des nouveautés qu'il faut amener et qui est là depuis, je vous dirais, depuis les 5 dernières années au moins, là, c'est intense, c'est cette espèce de dénigrement de la police.
Oui.
Le dénigrement, pas seulement disqualification aussi. Parce que, comment dire, il faut savoir que la police, c'est le bras de l'autorité de l'État. Donc, si celui que je représente ne me supporte pas, ben, je sais plus trop quoi, c'est quoi mon rôle. Et moi, ce que je vois depuis les 2 dernières années, c'est pire depuis les 2 dernières années, je vous dirais. C'est cette espèce de morosité, de découragement dans les troupes. Je parle des troupes, je parle pas des officiers. Sur le terrain,
là. Il y a un désengagement.
Sur le terrain, je veux pas encore dire désengagement.
Non?
Parce que c'est, non, parce okay. que désengagement, ça serait, c'est, comment dire, faudrait le démontrer. Il y a une recherche actuellement, d'ailleurs, qui est faite à l'École nationale de police, là, pour savoir s'il y a un désengagement, disons-le comme ça, systémique. Comme ils aiment le mot systémique, là, on va l'utiliser.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il y a un désengagement de toutes les troupes? On va voir. La recherche, cette année, techniquement, elle devrait sortir d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on le saura. Mais par contre, il y a un découragement, il y a une morosité, il y a des jeunes qui n'ont plus le goût. On voit qu'il y a des démissions, beaucoup plus de démissions qu'avant. On voit qu'il y a moins de recrutement, parce que les jeunes ne sont pas attirés à y aller dans cette job-là. C'est quoi cette job-là? C'est se retrouver dans les réseaux sociaux, se faire insulter, se faire traiter de raciste. Mais le pire dans tout ça, parce qu'au fond, on peut se dire que des individus, pour faire le buzz sur TikTok, par exemple, vont aller filmer des scènes et les décontextualiser, mettre ce qui les intéresse sur TikTok pour faire le buzz, pour casser du sucre sur le dos de la police. Hein. Mais lorsque le politique ne donne pas l'appui et, d'une certaine manière, écoute ces gens-là, ben, au bout du compte, les policiers, ils n'ont pas le goût. Soit ils démissionnent, soit ils partent à la retraite plus rapidement, soit ils ne s'engagent pas, tout simplement. Et c'est ça la conséquence. Et pire que ça, les policiers actuellement, en tout cas j'en connais un méchant paquet, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne font plus ou ils font moins d'interventions proactives. Et ça, c'est très important dans la sécurité publique, c'est la prévention proactive. C'est quoi la prévention proactive? C'est d'arrêter le crime avant qu'il soit commis. Comment on fait ça? C'est par l'observation, par le flair, par les faits, et par l'instinct policier. Je vois un véhicule en mouvement, ralenti un petit peu, des individus à l'intérieur, je trappe la plaque, je vois que le gars, c'est un jeune, mais la plaque est pour une dame de 70 ans. Oh, je commence à me poser des questions. Je suis dans Laval, mais la plaque, elle vient de la rive sud. Je veux vérifier. Je veux vérifier cette voiture-là.
OK. Oh, ça, là, Madame Mourani, est-ce que...
C'est un noir dans la voiture. Oh, là, je veux pas me faire traiter de raciste. Je vais pas en faire de l'intervention proactive. Je vais pas la faire. Ben, le gars, il va aller avec son gun. Il avait un gun, le gars. Il est parti au centre-ville ou il est parti à Laval régler le compte. Vous voyez, donc ça, c'est un gros problème actuellement.
Bon, éclairez-nous, là. Il y a une différence, donc, entre du profilage racial et du profilage criminel.
Tout à fait. Tout à fait. Le profilage racial, c'est basé sur, si vous voulez, c'est-à-dire tu décides d'intervenir parce que tu identifies cette personne-là racialement. Tu as des biais. Par exemple, un des biais, bon, tu vois un noir dans une voiture de luxe, tu te dis « Oh, c'est un trafiquant de drogue ». Pour moi, tous les noirs sont des trafiquants de drogue, je vais arrêter cette voiture pour vérifier si c'est pas un trafiquant de drogue. Ça, c'est du profilage racial. Mmh. Vulgairement dit, c'est du profilage racial. Vulgarisé, quoi, si vous voulez. Bon, un profilage criminel, c'est beaucoup plus complexe. Le profilage criminel est basé sur l'identification d'un crime à partir de caractéristiques du crime. Je vais vous prendre le plus bel exemple, les gangs de rue. Parce que les gangs de rue, parfois, le grand problème avec ça, c'est que si on n'est pas bon, là, ben, on peut faire du profilage racial.
Ouais.
Au lieu de faire du profilage criminel.
C'est ça.
Alors, celui qui va faire un profilage racial, il va partir d'un biais que tous les gars de gang sont des noirs. ou des Latinos ou des Arabes. Il va dire que c'est toutes les personnes de couleur qui sont des gars de gang. Ça, c'est du profilage racial. Celui qui va faire un profilage criminel, il va dire, bon, j'ai un individu ici qui est noir, ok, ou qui est, disons, Latino, ou blanc. La couleur ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui il fréquente. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il a des tatouages de gang? Est-ce qu'il porte des chaînes avec le nom de gang? Pas des chaînes, n'importe lesquelles. Oui. Mais c'est parce que je connais les gangs de mon territoire. Si je suis à Montréal, par exemple, si je suis à Rivière-des-Prairies, que je vois un gars blanc, noir, jaune, je m'en fous. Mais si je le vois se balader avec des vêtements de couleur rouge et puis que c'est marqué PB, je sais que c'est des, je sais que c'est un nom de gang, les PB. Si je le vois avec 43, je sais que c'est les gars des 43, ouais. Il est en rouge. Donc, les gangs ont une sous-culture. Dans leur sous-culture, il y a des règles, il y a des signes. Tatouage, graffiti, habillement, nom du gang, parfois même des symboles qui représentent soit ce qu'il fait. Si c'est un proxénète, par exemple, il a un tatouage particulier. S'il a fait de la prison, il a un tatouage particulier. Tout ça fait partie du profilage criminel. Mais lorsque tu ne connais pas bien, c'est pour ça que je dis que il faut que la formation gang de rue soit donnée à tous les policiers. Tous. Pas seulement les enquêteurs ou les spécialistes des gangs, c'est-à-dire ceux qui font les enquêtes sur le crime organisé. Il faut que ça soit donné aux patrouilleurs dans la rue, ce genre de formation-là. Pour qu'ils fassent la différence entre un jeune noir qui chill, comme on dit, et qui joue au gars de gang, ce qu'on appelle les wannabes, ouais. Ça, il y en a un méchant paquet. C'est-à-dire, ils vont même porter des couleurs rouges. Donc, parce que pour eux, c'est une fierté de faire croire qu'ils sont des membres de gang dans un territoire où si tu fais partie d'un gang, ben, tu fais peur. Donc, on n'ose pas trop t'embêter. Mais en même temps, il faut faire attention parce que si tu n'es pas membre du gang, ils vont te régler le compte. Donc, c'est-à-dire, même les vêtements, il faut faire attention parce que il y a des jeunes qu'on appelle des wannabes qui vont mettre ces vêtements. Donc, c'est un assemblage encore de critères qui fait en sorte que tu fais un bon profilage criminel. C'est sûr qu'un jeune qui porte un habit rouge mais qui n'a pas les signes des PB ou des 43 ou qui n'a pas les tatouages, bon, il faut se poser des questions.
Ouais.
Puis, il y a des gars de gang qui ne vont pas mettre les couleurs.
Aussi.
Vous voyez?
Ah, ouais.
Ils ne vont pas mettre les couleurs. Alors,
pourquoi?
C'est pour ça que c'est très difficile. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas être identifiés.
Ouais.
Ils sont pas
okay.
cons, hein. Ils veulent pas être identifiés, ils veulent se la couler douce, ils veulent pas trop mettre l'attention sur eux. Et il y a des gangs qui ont pas de couleur. Parce qu'il y a des gangs qui ont pas de couleur. Par contre, tous les gangs ont des noms. Impossible qu'un gang n'a pas de nom. Mmh. T'es pas un gang. T'as pas de nom, t'es pas un gang.
Non, c'est ça.
Que tu dois faire ton nom. Alors, moi je dis parfois, oubliez les couleurs, oubliez les vêtements, mais essayez de trouver les tatouages et les noms. Ça, c'est les caractéristiques physiques liées à la sous-culture. Mais après ça, il y a le renseignement criminel.
Ouais.
Si tu fréquentes, est-ce qu'il a commis déjà des actes criminels? Donc, il y a plein d'éléments après qui sont typiques du renseignement criminel qui permettent de faire du profilage criminel et non pas du profilage racial.
Ouais,
c'est très complexe.
Ouais, mais c'était très clair, Maria Mourani. Deux questions en terminant. La première, je veux pas minimiser l'importance de la prévention, là. Mais là,
oui.
Est-ce que la situation commande d'autres mesures? C'est-à-dire, est-ce que dans le contexte actuel, il faut davantage de policiers sur le terrain puis des actions concrètes?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut voir que la prévention, d'abord, la prévention, c'est très important. Si on ne fait pas en sorte, quant à moi, de mettre au moins 10% du budget global qu'on met en répression dans la prévention, donc on regarde c'est quoi notre budget en répression, on se dit on va mettre 10% de ça dans la prévention jeunesse globale. C'est-à-dire, on ne va pas seulement cibler ce qu'on appelle les jeunes à risque. Mmh. Il faut cibler tous les jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à moyen et court et long terme, les résultats. Mais là, maintenant, dans la situation de violence extrême que l'on a, ce qu'on doit avoir, c'est plus de policiers. C'est la répression. Maintenant, actuellement, c'est la fermeté, la répression, arrestation, condamnation à long terme. Pas des petites sentences, puis les gars, ils ressortent, puis ils continuent, là. Non, faut être ferme. Faut vraiment être ferme. Alors ça, ça demande quoi à court terme? Ça demande que des policiers. Ça demande qu'on engage des policiers parce qu'il y a un trou dans, il y a un manque d'effectifs là dans les effectifs, en tout cas du SPVM. Ok.
Ouais.
Il faut engager rapidement des policiers et ça fait plus d'un an et demi que la mairesse dit qu'elle va engager du monde, qu'elle ne fait rien. Ça, c'est la conséquence de son inaction politique et surtout de son idéologie qui sous-tend un définancement de la police. Ça, c'est un. L'autre affaire, pour aider les policiers à mieux se sentir, à avoir le goût de venir justement, de s'engager dans cette job-là, il va falloir qu'on fasse deux choses. Premièrement, faire un appui fort aux policiers en termes d'intervention proactive. Parce que c'est là que le bât blesse, c'est là que les policiers sont pas bien. Parce que eux, quand ils vont à l'école, là, on leur apprend qu'ils doivent faire de la prévention proactive.
Ouais.
Quand ils arrivent sur le terrain, on leur dit pas ça directement, on leur dit indirectement, tu peux pas en faire avec les personnes racisées, sinon on va t'accuser de profilage racial. Ça, il faut qu'on arrête ça.
Dites-moi,
il faut vraiment qu'on mette ça clair.
Ouais. Dites-moi, en conclusion, en quelques secondes, Maria Mourani, vous parlez de la mairesse Plante. Là, je comprends qu'on est dans un contexte aussi de négociation syndicale. Mais avez-vous l'impression que les ponts sont brisés, là, entre son administration, elle-même, et ses policiers?
Je pense que le lien de confiance est très fragile. Je suis une optimiste, donc j'espère qu'il n'est pas brisé, mais elle a une grande côte à remonter pour retrouver la confiance des policiers. Et je pense que l'un des éléments qu'elle pourrait faire, outre le fait de tenir sa promesse d'engager des policiers, c'est d'instaurer les fameuses caméras corporelles que les policiers demandent depuis longtemps, parce qu'ils veulent être à armes égales avec ceux qui les filment. Donc ça va montrer que au fond... ça, c'est un petit geste qui peut montrer qu'elle leur fait confiance, puis qu'elle fasse elle a fait un point de presse là, mais j'ai pas vraiment entendu grand chose sur son appui à la police. Donc, faudrait vraiment qu'elle prenne un engagement ferme à soutenir les policiers quoi qu'il arrive. Et ça, je pense pas qu'elle va le faire parce que je l'ai vu dans plusieurs manifestations anti-police.
Ouais.
Donc.
Ouais. D'ailleurs, on va laisser le mot de fin à la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
C'est non.
Ah, bon, non, finalement, on n'ira pas. Maria Mourani, criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Merci d'avoir été avec nous.
Grand plaisir. Au revoir.